confortablement confiné, assis à travailler, allongé ou debout pour cuisiner, lisez ou relisez les plus belles pages de la littérature française. Écoutez dans la voix de grands comédiens La Princesse de Clèves, Le Voyage de Jules Verne, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Les Fables de La Fontaine ou encore L'École des Femmes de Molière. Et révisez ces œuvres commentées avec le précieux concours des professeurs de l'éducation nationale. Vous avez moins de 18 ans, cette émission a aussi été pensée pour vous aider à préparer votre oral du bac de français. Chaque jour, sur France Culture, nous vous donnerons à entendre et à comprendre un grand texte de notre patrimoine littéraire. Aujourd'hui, les fables de Jean de La Fontaine.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Depuis la parution du premier recueil en 1668, bien sûr, le succès des fables de La Fontaine ne s'est jamais démenti. 184 fables, d'abord dédiées au dauphin, Louis de France, alors âgé de 7 ans, écrites dans un style vif et faussement naïf, la plupart imitées des auteurs antiques comme Ésope. 10 ans plus tard, deuxième recueil, en 5 livres et 87 fables, dédiées cette fois à Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV. N'allez pas croire que La Fontaine avait trouvé le bon filon et qu'il n'avait qu'à tirer le fil. Le poète veut montrer qu'il se renouvelle, il fait alors entrer de nouveaux animaux dans son bestiaire, plus d'humains aussi. Son écriture est plus subtile et il multiplie les sources. Au classique de l'Antiquité s'ajoute ici l'influence orientale venue d'un fabuliste indien. Dans la sélection de fables qui vous est proposée aujourd'hui, il y a un animal qui règne en maître, c'est le lion, tantôt cruel, tantôt rusé. Et on constate très vite sous la plume de La Fontaine que le roi des hommes et celui des animaux ont beaucoup en commun, pas simplement de l'autorité, mais aussi des courtisans qui n'arrêtent pas de se quereller pour lui plaire. La cour du roi est une véritable cage aux fauves. Louis XIV et le lion, donc, l'auteur ne cesse de les associer. Les deux figures se superposent selon un code bien établi et il n'est pas rare que dans l'esprit du lecteur, elles se confondent purement et simplement. Si La Fontaine est un excellent moraliste, si avec ses fables il donne à penser, allant jusqu'à discuter dans ce deuxième recueil avec Descartes, l'auteur n'entend pas faire la morale. Il veut avant tout raconter de bonnes histoires, faire sourire, séduire par des traits d'esprit. Le roi peut donc sans souci être l'ultime destinataire des fables. Et si au passage il contribue à l'édification morale du prince, à révéler les brûlures du pouvoir, alors pourquoi s'en priver ? Allez, on part maintenant à la cour du roi avec Ariane Ascaride, muse du cinéaste Robert Guédiguian, prix d'interprétation à la dernière Mostra de Venise pour son rôle de mère dans Gloria Mundi. La comédienne lit pour vous aujourd'hui les fables de La Fontaine. Elles sont au nombre de 4, font entre 3 et 5 minutes chacune. On écoute et je vous retrouve juste après, dans une dizaine de minutes, donc pour vous livrer l'analyse qu'en font les professeurs de l'éducation nationale. On ouvre avec une fable qui fait étrangement écho à ce que nous vivons aujourd'hui, le monde sous pandémie.
Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez moutons, canailles, sottes espèces. Est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria un rot sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La cour du lion. Sa majesté lionne un jour voulut connaître de quel nation le ciel l'avait fait naître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant le roi tiendrait cour plénière dont l'ouverture devait être un fort grand festin suivi des tours de fagotin. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre! Un vrai charnier dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Le singe approuva fort cette sévérité. Et, flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince, et l'antre, et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qu'il ne fût taille au prix. Sa sotte flatterie eut un mauvais succès, et fut encore punie. Ce monseigneur du lion-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, « Orsa, lui dit le sire, que sens-tu, dis-le-moi, parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume. Il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils sentirent. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre en normand. Les obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu, ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince au cri s'abandonna, et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'ils plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi Lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit « Chétif hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. » Le cerf reprit alors. Sire, le temps de pleurer passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre les fleurs tout près d'ici, m'est apparue, et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux champs élyséens, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose, qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes. Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont l'appât. Vous serez leur ami. Le lion, le singe et les deux ânes. Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se fit un beau jour amener le singe. Maître S.R. chez la gent animale. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément amour-propre, car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose si petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour. Par là, votre personnage auguste n'admettra jamais rien en soi de ridicule ni d'injuste. Donne-moi, repartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, toute profession s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, les qualifie impertinentes et semblables discours qui ne nous coûtent rien. L'amour-propre, au rebours, fait qu'au degré suprême, on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien, qu'ici-bas main talent n'est que pure grimace, cabale et certain art de se faire valoir, mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, suivant à la trace deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour comme c'est la manière, jouit que l'un des deux disait à son confrère « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot l'homme, cet animal si parfait ?» Ils profanent notre auguste nom, traitant d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot. Ils abusent encore d'un mot et traitent notre rire et nos discours de braire. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par-dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards. Mais laissons là ces gens, vous m'entendez? Je vous entends. Il suffit. Et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est au prix novice dans cet art. Vous surpassez Lambet. L'autre Baudet repart. Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Ces ânes, non contents de s'être ainsi grattés, s'en allèrent dans les cités, l'un l'autre se prônait. Chacun d'eux croyait faire, en prisant ses pareils, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. J'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les Baudets, mais parmi les puissances, que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, qui changeraient entre eux les simples excellences s'ils osaient en des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour-propre donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour. Il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita l'autre point, car il est délicat. Et notre maître S.R., qui n'était pas un fat, regardait ce lion comme un terrible sire.
France Culture, écoutez, révisez. Les grands textes du patrimoine littéraire.
On pourrait peut-être nommer ces fables « Méditations sur l'exercice du pouvoir » par Jean de La Fontaine, non? Qu'en pensez-vous? Ce qu'en disent maintenant nos professeurs, il est intéressant de noter que la fable utilise la fiction animalière ou pastorale comme un miroir que le fabuliste tend au lecteur. Une relation de complicité se noue entre eux. Le genre autorise l'impertinence qui permet de ne pas être dupe des effets de la puissance. L'auteur invite à se méfier des illusions séduisantes et des compliments qui cachent souvent de basses flatteries. Comment vivre et bien se conduire en société? Suivons d'abord la trace du lion. Il quitte ici son naturel sauvage pour devenir un animal social. Son instinct naturel de prédateur devient la métaphore des intérêts, de la recherche de faveurs et des calculs d'ambition. Quand la fable se fait satire. Les courtisans, ensuite, ils craignent la puissance, mais ont bien conscience qu'il est préférable de se concilier les faveurs du prince. Un exercice difficile qui leur demande de s'ajuster en permanence, entre ruse et contorsion, un délice pour le lecteur. D'ailleurs, vous noterez que La Fontaine en appelle parfois à la prudence. Il met surtout en garde contre l'excès de confiance et tâchez quelquefois de répondre en normand, recommande-t-il dans la fable intitulée « La cour du lion ». Il sanctionne impitoyablement la naïveté des pauvres ânes et valorise au contraire ceux qui comprennent vite et ne se font pas piéger. Eux seuls semblent connaître le vrai trésor, l'humour plutôt que l'ambition, à moins qu'ils ne sachent simplement mieux jouer que les autres. Les fables sont faites pour amuser. L'univers qu'elles dessinent est très codifié. C'est un petit théâtre de fiction où chaque animal est enfermé dans son rôle. D'une fable à l'autre, chaque fois qu'il entre en scène, la partition qu'il va jouer est la même. C'est le cas du lion, du renard, toujours fidèle à lui-même, du loup ou encore des ânes. Les fables ne sont pas réalistes ni naturalistes. Ici, tout est jeu. Ce que cherche l'auteur, c'est à faire surgir un sourire chez le lecteur au détour d'un vers ou d'une bonne chute narrative. Rien de mécanique non plus, ni d'artificiel. La Fontaine prend bien soin de ne pas toujours tirer les mêmes ficelles pour que des émotions vraies puissent voir le jour. Pour que les drames de ce monde, ses douleurs, ses cruautés ne soient pas occultées. Arrêtons-nous un moment sur la première fable que vous avez pu écouter. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répond à la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste puisqu'il faut l'appeler par son nom. Ainsi commence la fable de La Fontaine. C'est donc une épidémie de peste, exergue bien douloureuse, qui ouvre singulièrement le second recueil des fables de La Fontaine et éloigne le lecteur du ton, peut-être plus léger, du premier recueil. Ici, l'arrière-plan de cette première scène de pouvoir est bien sombre. Dans les obsèques de la Lyonne, aussi, le palais est en deuil et ce climat ne fait qu'accentuer la faiblesse des victimes. Le pauvre âne est sacrifié par les courtisans et le faible cerf, un bouc émissaire tout trouvé. Tout le royaume tremble, on craint de se présenter à la cour, on craint de commettre un faux pas en conseillant le roi. On sait qu'en cas de malheur, les victimes seront sacrifiées sans scrupule. Le frisson, la peur ont remplacé le rire. Sur la forme maintenant, ce qui compte, chez et avec Jean de La Fontaine, c'est quand même le plaisir de raconter des histoires, je vous le disais. Le roi consulte beaucoup et permet ce faisant aux personnages de prendre tour à tour la parole et de rivaliser de malice. Dans les fables, comme à la cour, on aime bien entendre parler au style direct. Dans Les animaux malades de la peste, par exemple, le roi s'exprime longuement, une vingtaine de vers, puis cède la parole au renard, puis à l'âne, que sa tirade condamne. Dans la cour du lion, le renard, à la demande du roi, doit parler sans déguiser, un vrai morceau de bravoure. Dans le lion, le loup et le renard, il se fait médecin conseiller et déploie ici sa proposition en quelques vers très savoureux. Le singe aussi manie les mots avec virtuosité, un véritable théâtre de paroles et un théâtre des cruautés. Voyez l'ours, imprudent, mis à mort de manière expéditive. Faut-il se révolter? Irrité, dégoûté, la sanction est bien plaisante en vérité puisqu'elle donne lieu à cette rime malicieuse. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûté. L'humour et le verbe chez La Fontaine volent à la rescousse des noirceurs de ce monde. Voilà, maintenant que vous avez toutes ces clés de compréhension bien en tête, je vous propose d'écouter une dernière fable, celle du berger et du roi. La cour est bien cruelle avec celui qui ne sait pas manœuvrer, même si son ambition est légitime. La sagesse voudrait que le berger retourne à son troupeau, à la nature juste et mesurée. Il faut pourtant la sagesse de l'ermite, double de La Fontaine dans le récit, pour le mettre en garde sur les illusions du pouvoir. Confondre un fouet avec un serpent est un manque de clairvoyance fatale. Mais si vous savez prendre un lion pour un roi et jouer la comédie de l'affabulation, vous aurez tout à y gagner.
Le berger et le roi. Deux démons à leur gré partagent notre vie, et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle l'un amour et l'autre ambition. Cette dernière étend le plus loin son empire, car même elle entre dans l'amour. Je le ferai bien voir. Mais mon but est de dire comme un roi fit venir un berger à sa cour. Le conte est du bon temps, non du siècle où nous sommes. Ce roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs, bien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans, grâce aux soins du berger, de très notables sommes. Le berger plut au roi par ses soins diligents. « Tu mérites, dit-il, d'être pasteur de gens. Laisse là tes moutons, viens conduire des hommes. Je te fais juge souverain. » Voilà notre berger la balance à la main. Quoiqu'il n'eût guère vu d'autres gens qu'un ermite, son troupeau, ses matins, le loup, et puis c'est tout. Il avait du bon sens. Le reste vient ensuite. Bref, il en vint fort bien à bout. L'ermite, son voisin, accourut pour lui dire « Veillez, gênez-ce point un songe que je vois, vous favoris, vous grands, défiez-vous des rois. Leur faveur est glissante, on s'y trompe, et le pire, c'est qu'il en coûte cher. » De pareilles erreurs ne produisent jamais que d'illustres malheurs. Vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage. Je vous parle en ami, craignez tout. L'autre rit, et notre ermite poursuivit. Voyez combien déjà la cour vous rend peu sage. Je crois voir cet aveugle, à qui dans un voyage, un serpent engourdi de froid vint s'offrir sous la main. Il le prit pour un fouet. Le sien s'était perdu tombant de sa ceinture. Il rendait grâce au ciel de l'heureuse aventure quand un passant cria « Que tenez-vous ? Ô Dieu, jetez cet animal traître et pernicieux, ce serpent ! C'est un fouet, c'est un serpent, vous dis-je ! Attends, me tourmenter, quel intérêt m'oblige ? Prétendez-vous garder ce trésor ? Pourquoi non ? Mon fouet était usé, j'en retrouve un fort bon. Vous n'en parlez que par envie. » L'aveugle enfin ne le crut pas. il en perdit bientôt la vie. L'animal dégourdi piqua son homme au bras. Quant à vous, j'ose vous prédire qu'il vous arrivera quelque chose de pire. Et que me serait-il arrivé que la mort ? 1000 dégoûts viendront, dit le prophète ermite. Il en vint en effet. L'ermite n'eut pas tort. Mainte peste de cour fit tant par main ressort que la candeur du juge ainsi que son mérite furent suspects au prince. On cabale, on suscite. Accusateurs et gens grevés par ses arrêts, de nos biens, dirent-ils, il s'est fait un palais. Le prince voulut voir ses richesses immenses. Il ne trouva partout que médiocrité, louange du désert et de la pauvreté. C'était là ses magnificences. Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix. Un grand coffre en est plein, fermé de 10 serrures. Lui-même ouvrit ce coffre et rendit bien surpris tous les machineurs d'imposture. Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, l'habit d'un gardeur de troupeau, petits chapeaux, jupons, panetières, houlettes, et je pense aussi sa musette. Doux trésor, se dit-il, cher gage qui jamais n'attira sur vous l'envie et le mensonge, je vous reprends. Sortons de ces riches palais comme l'on sortirait d'un songe. Sire, pardonnez-moi cette exclamation. J'avais prévu ma chute en montant sur le fait. Je m'y suis trop complu. Mais qui n'a dans la tête un petit grain d'ambition ?
Et maintenant, tous à vos livres, je vous renvoie à la lecture des recueils des Fables de La Fontaine au programme du Bac Général cette année. Et pour aller plus loin, d'autres rendez-vous de la chaîne, des liens vous sont proposés sur le site. Le temps d'un confinement, à l'heure de la grande table, écoutez Réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci aux professeurs qui ont élaboré ce programme avec Anne Simsac. Lecture coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon avec Bastien Varigo à la technique. Mise en onde, Mydia Portis-Guérin. Une émission à écouter du lundi au vendredi à midi sur l'antenne de France Culture ou à toute heure en réécoute et en podcast sur franceculture.fr. Demain, dans Écouter Réviser, la princesse de Clèves. Très bel après-midi à tous sur France Culture.